Dismas, Saint Dismas, représente donc le vieil homme tel qu'il est mort, et tel que la nature du chrétien, telle qu'elle est, tel qu'il est un vrai homme, et qu'il n'est pas autre chose qu'un homme, et qu'il n'est pas encore un bienheureux. Saint Dismas représente donc le vieil homme mort. Le vieil homme mort, nous l'avons dit, n'est plus qu'un fantôme, dont l'impression impressionne encore, demeure encore par défaut, tant que le Christ ne ressuscite pas en lui. Saint Dismas, à un certain moment, il a fini par mourir. Je ne vous fais pas un dessin comment il est mort, mais il a fini par mourir. Il est descendu aux enfers, et le Christ, quelques heures après, ou quelques temps, même très rapidement après, est venu le sortir, et il a été un des premiers à rentrer au paradis, puisqu'il était descendu aux enfers avec les justes dans l'Ancien Testament, et le Christ a bien sûr ouvert les portes de cet enfer-là et a ramené tous nos pères dans le ciel. Donc il se trouve que si nous nous imaginons qu'il y a encore en nous quelque chose qui appartient à ce que nous étions autrefois, s'il y a un gesmas en nous qui injurie le Christ à la première occasion parce qu'il souffre, voyons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ce n'est plus qu'une impression par défaut qui nous reste de ce que nous étions autrefois. Un petit peu, encore une fois, comme ces blessures que nous avons, nous nous sommes profondément coupés, nous nous sommes entaillés, nous nous sommes, que sais-je, bon bref, chacun son histoire, mais il se trouve que, donc, tout a guéri par la grâce de Dieu, mais à certains moments, quand le temps change, etc., il y a des choses qui se passent, nous sentons des picotements, nous sentons des choses. Eh bien, mes très chers frères, nous sentons encore les impressions du vieil homme tant que nous ne sommes pas entièrement ressuscités avec le Christ. Alors la question qui se pose, c'est mais comment ? Comment ressusciter avec le Christ ? Eh bien, mes très chers frères, un auteur nous dit ceci, si l'on ne change véritablement, on ne ressuscite pas. Si l'on ne change véritablement, on ne ressuscite pas. Comment ressusciter ? C'est une question qui implique des effets sensibles, non pas simplement pour nous, mais pour tout le monde. Non pas que nous donnons en spectacle, bien entendu, mais tout le monde peut les constater, ces effets. Si l'on ne change pas véritablement, on ne ressuscite pas. Nous pouvons avoir été ensevelis avec le Christ par le baptême, et ça, il suffit que notre nom soit enregistré dans le registre baptismal, c'est-à-dire que nous ayons reçu et bénéficié du sacrement du baptême. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, pour ressusciter, il faut que nous changions. Il faut que nous changions réellement. Il faut que l'amour que nous portions à ce que nous étions autrefois ait fait place à l'amour que nous portons à Dieu présentement. Il y a une source d'illusion, nous disent les auteurs moralistes, il y a une source d'illusion dans la vie du chrétien qui consiste à croire être mort au péché aussitôt aussitôt qu'on les a confessés. Et c'est une grave erreur. On confesse ses péchés parce qu'on les déteste pour une raison ou pour une autre, c'est très bien. On reçoit l'absolution, bon, et après on dit, bon, ben voilà, je suis mort à ses péchés. Mais après on les remet, on les refait. Donc si nous les refaisons, c'est que d'une certaine manière, nous avions encore quelques tendances en nous qui nous les a fait faire. Vous allez dire, oui, mais c'est parce que ce sont des péchés d'habitude, ce n'est pas, moi je les déteste, mais oui, mais c'est un petit peu comme disait l'autre, moi je déteste mes péchés, mais c'est mon corps qui pêche, mais on va châtier votre corps alors. Vous voyez ? Non, mes très chers, soyons sérieux. Si nous confessons nos péchés, et nous devons confesser nos péchés, il se trouve néanmoins que si nous continuons à les commettre, c'est un fait de la vie chrétienne, il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas les commettre, il s'agit de traiter cette maladie. Si nous continuons à les commettre, c'est qu'il y a encore en nous un défaut de résurrection, c'est-à-dire un défaut d'amour de Dieu qui fait que nous aimons encore plus, et nous aimons toujours plus la racine des péchés, puisque nous continuons à nourrir cette plante, que la racine des bonnes œuvres, qui est l'amour de Dieu. Il y a donc une illusion dans la vie chrétienne qui se combine malheureusement bien avec ce gesmas qui continue à injurier le Christ en nous, c'est quand on s'imagine être mort au péché et qu'on ne l'est pas vraiment. Quand on s'imagine être ressuscité avec le Christ aussi facilement qu'on est mort avec lui. On est facilement mort avec lui, il suffit d'avoir reçu de l'eau sur la tête de la part d'un prêtre avec les paroles formelles. Bon, de la forme. D'accord. Maintenant, pour ressusciter, c'est toute la suite du baptême. Le prêtre qui nous a baptisés ne peut pas vivre une vie sainte, une vie juste pour nous. Il faut que nous mettions en pratique toutes les grâces et la force que nous avons reçues au baptême. Il faut que l'amour que nous portions à ce que nous étions autrefois soit vaincu et dépassé en force par l'amour pour la vertu opposée, les vertus opposées, c'est-à-dire pour la charité. Saint Paul nous dit, afin que nous marchions dans une vie, une nouveauté, une vie nouvelle, nous aussi, nous marchions nous aussi pareillement dans une vie nouvelle. Eh bien, mes très chers frères, pour connaître si nous sommes vivants à Dieu, nous dit un auteur spirituel, voyons si nous sommes véritablement morts au monde. On ne peut pas, on peut s'enorgueillir d'être baptisé et de ne plus être ce que nous étions. Mais on peut aussi vivre une vie digne d'un baptisé, de telle sorte que nous ne soyons même plus ce que nous étions au début de notre baptême, si nous avons été baptisés avec, dans un esprit, disons, d'incurie et de légèreté, que nous soyons de meilleurs chrétiens de ce que nous étions. Normalement, il ne faudrait pas perdre la grâce baptismale, mais malheureusement, ça arrive souvent. Donc, il se trouve que nous devons désormais nous appliquer, par la pénitence, à mettre en œuvre la puissance de la résurrection en nous. Alors, nous arrivons à notre deuxième point. Quels sont les moyens, quels sont les moyens, quelles sont les marques de la résurrection? Notre Seigneur, ou l'Évangile, dans notre Seigneur, qui est l'Évangile de la multiplication des pains, nous en donne un certain nombre, je vous en donnerai sept, on pourrait en donner bien plus, on pourrait en donner moins, peu importe, voyons sept points, sept marques. Bienheureuses les foules dont notre Seigneur a pitié. J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont pas de quoi manger. Les commentateurs sont unanimes pour voir dans cette foule l'image des élus. Notre Seigneur a pitié de ceux que le Père lui a donnés. Il a pitié de tous ceux qui viennent à lui, et c'est pour ça qu'il dit « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et celui qui viendra à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. » Je garde tous ceux que le Père m'a donnés, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Bienheureuse la foule dont notre Seigneur Jésus-Christ a pitié. Dieu, d'une façon générale, a pitié de toutes ses créatures, c'est-à-dire qu'il fait pleuvoir plus ou moins régulièrement sur tous, il leur donne de la nourriture, il les préserve en vie, même au sein de leur tribulation. Mais, d'une certaine manière, cette pitié-là de Dieu se transforme souvent ou aboutit souvent à une sorte de rigueur. Puisque les hommes ont reçu la miséricorde de Dieu et ne l'en ont pas remercié, il se trouve que Dieu devra sévir envers eux. Donc cette pitié-là se transforme souvent, aboutit souvent à la rigueur. Maintenant, il se trouve qu'il y a une pitié que le Seigneur a pour son peuple, une pitié qui lui fait faire un miracle, le miracle de la multiplication des pains. Comment faire partie de cette foule dont le Christ a pitié ? Comment mettre en œuvre la résurrection que nous avons reçue, qui a été la nôtre par le baptême? Voyons un petit peu cet évangile. Tout d'abord, la première marque de la résurrection, ou le premier moyen de ressusciter, c'est de suivre notre Seigneur Jésus-Christ au désert. C'est abandonner les maximes du monde, sans les remplacer par leurs équivalents mondains au sein du christianisme. Chacun doit faire son examen de conscience sur ce sujet. On peut être sensuel, prenons un exemple un peu grossier, on peut être très sensuel dans le monde, aimer les bonnes choses, se livrer à toutes sortes de choses, bien sûr, et on se convertit, c'est très bien, on est baptisé, si on n'en était pas, c'est encore mieux, et il se trouve que on n'est plus sensuel comme on était, mais par exemple, on va se délecter de toutes sortes de révélations privées qui vont en quelque sorte produire en nous une sorte de sensualité mystique, qui, je dirais même pas de bas étage, parce que c'est de bas étage, si j'ose dire, de telle sorte que nous avons abandonné une sensualité physique, en quelque sorte, ou sensible, pour une sensualité de type tout aussi sensible, mais un peu plus éthérée. Vous voyez ? Souvent ça arrive comme cela. Ou alors on était une sorte d'activiste, on ne pouvait pas s'empêcher de faire toutes sortes de choses, et on se convertit, et donc du coup on tombe dans l'activisme, etc. Bon, nous en parlons souvent, mais voilà. Ou alors on était en quelque sorte, je ne sais pas moi, on était un enfant prodigue étant païen, on se convertit et on devient quelqu'un qui a tendance à faire toutes sortes d'imprudences avec son bien parce que sous prétexte de faire le bien. Mais d'une façon, je ne dis pas, il ne s'agit pas d'être ici, faire preuve de vraie libéralité dans l'aumône, il s'agit de faire n'importe quoi. Ce n'est pas bien, vous voyez, on troque une chose qu'on ne fait plus pour quelque chose qui n'est pas mieux, mais en mode chrétien. Donc il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ au désert, il faut se retirer. Il faut se retirer, et bien heureux ceux qui peuvent suivre notre Seigneur Jésus-Christ au désert, avec tous leurs biens, avec tous ceux qui leur sont proches, et qui peuvent se retirer dans des lieux à l'écart, dans des lieux désertiques au sens spirituel et humain, de telle sorte à pouvoir vivre d'une vie chrétienne plus facilement. La vie chrétienne sera toujours difficile, mais elle peut être, on peut l'aider. Vous voyez, bienheureux ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Donc, une première marque un premier moyen de résurrection et un premier moyen pour ressusciter, pour mettre en œuvre, pour actualiser cette résurrection du baptême, c'est de suivre notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Une deuxième marque, un deuxième moyen, c'est de suivre notre Seigneur Jésus-Christ pour l'écouter. On suit parfois notre Seigneur Jésus-Christ au désert, on se retire du monde. Mais c'est en quelque sorte pour mieux écouter notre petite idée sur le christianisme. Moi, il me semble que le christianisme, c'est ceci, cela, je vais combattre pour ceci, pour cela, pour mes idées. Voilà. Attendez, vous avez fait l'effort de sortir du désert, de sortir du monde pour aller dans le désert, taisez-vous, écoutez notre Seigneur. Vous allez dire, mais je l'écoute, c'est pour ça que j'écris des articles. Attendez, non, écouter notre Seigneur, c'est écouter l'enseignement de l'Église. Vous allez dire, mais j'en reçois un enseignement qui est minable, etc. Attention, ce n'est pas une bonne façon de parler. Les prêtres font ce qu'ils peuvent, et il faut toujours honorer les prêtres, quel que soit l'enseignement qu'ils donnent, moyennant qu'ils soient orthodoxes, évidemment, cela va sans dire. Mais il ne faut jamais mépriser l'enseignement qu'on reçoit. Maintenant, il se trouve qu'il faut aussi chercher le bon enseignement. Donc, il faut suivre notre Seigneur Jésus-Christ pour l'écouter. Ce n'est qu'en écoutant notre Seigneur, et en prêtant l'oreille, bien entendu, pas simplement en écoutant comme on écoute n'importe quoi, mais en prêtant l'oreille à notre Seigneur, que l'on peut mettre en œuvre la résurrection qu'a opéré en nous le baptême. Évidemment, ce n'est pas à strictement parler le seul fait d'écouter. Mais si l'on n'écoute pas, on ne peut pas savoir ce que nous devons faire. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui veulent faire, mais qui ne prennent pas le temps d'écouter. Écoutez d'abord, pratiquez ensuite, et quand vous pratiquez, continuez à écouter pour savoir ce que vous devez faire ensuite. Troisième point, troisième marque de la résurrection, troisième moyen de ressusciter, écoutez notre Seigneur sans se plaindre de l'incommodité de notre situation et de la sévérité de sa doctrine. Il y a bien des gens qui se retirent du monde, qui se taisent pour écouter notre Seigneur, mais qui, après qu'il l'a écouté, se mettent à se plaindre en se disant « Oui, non, mais ça, c'est quand même trop, on ne peut pas, on n'est plus à l'époque, et puis je ne suis pas un religieux, je ne suis qu'un laïc, je ne peux pas non plus, c'est ça et l'autre. » Et du coup, l'essentiel du christianisme, à commencer par son cœur, sa substantifique moelle, qui est le devoir d'aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même, donc la charité, devient finalement, et en quelque sorte, j'allais dire rétrogradé, ou plutôt, est promu au rang de conseil. Le précepte, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas tuer. Bon, je sais que quand je me mets en colère, je tue un petit peu quand même mon prochain, mais enfin bon, grosso modo, je n'ai jamais atomisé, je ne sais pas moi qui ai lancé la bombe sur Hiroshima, donc du coup, ça ne me concerne pas, je n'ai pas tué, donc c'est très bien, c'est le précepte, c'est l'essentiel. Je n'ai pas volé, hein, j'ai un petit peu comme ça, mais enfin bon, je ne suis pas comme tel ministre qui carrément détournait des fonds, etc., donc ça va. Et puis tout le reste, de toute façon, c'est pour les religieux, c'est de conseil, c'est la perfection, c'est l'idéal, il faut faire la part des choses, hein, j'ai souvent entendu, il faut faire la part des choses, non. Mes très chers frères, ça c'est très mal. Vous regardez, vous avez fait l'effort de sortir du monde, vous avez fait l'effort d'écouter notre Seigneur, écoutez-le humblement. Ne l'écoutez pas pour dire que c'est un uluberlu qui enseigne des choses impraticables. Attention, ça c'est dit. Et vous le savez, ce ne sont pas forcément les meilleurs disciples de notre Seigneur qui l'ont dit, hein, pour dire le moins. Alors, attention, écoutez notre Seigneur, pour ressusciter, il faut écouter notre Seigneur sans se plaindre. Sans se plaindre de la sévérité de sa doctrine. Il ne faut pas dire « Ah oui, mais ça c'est du rigorisme, ça c'est impraticable, ça c'est une façon... » Non, non. Il ne faut pas dire « Non, ben, je vais écouter plutôt quelque chose qui va plutôt dans mon sens. » Écoutez ce qui vient à vous. Vous avez des oreilles, si vous les ouvrez toutes grandes avec foi en demandant à Dieu votre pain quotidien, alors vous allez recevoir une doctrine, mais cette doctrine va sans doute vous déplaire par certains côtés. Elle va vous plaire par certains côtés, évidemment, faites-y attention, parce qu'elle pourrait vous plaire pour des mauvaises raisons. Mais si elle vous déplaît, et qu'elle est orthodoxe, évidemment, mais bon, il s'agit ici d'une orthodoxe, si elle vous déplaît par un certain côté, si vous voyez que c'est plutôt Jesmas qui se met à gesticuler et à brailler, sachez que, alors, c'est vraiment la doctrine orthodoxe, c'est vraiment la doctrine qui fait du bien, c'est vraiment à l'âme, c'est vraiment la doctrine qui fait ressusciter l'âme. Si vous avez, vous entendez une doctrine et que Jesmas se met à dire « Ah ben voilà, ça c'est quelque chose de bien, etc. » Oulala, faites très attention. Quand Jesmas commence à arrêter d'insulter notre Seigneur et qu'il commence à dire que c'est un brave type, c'est que probablement ce n'est plus notre Seigneur, c'est tout simplement sa volonté propre qui est à côté de lui et qui est face à lui. Et même, Jesmas peut même se repentir et faire pénitence devant sa volonté propre. Ça, c'est accessible à tout le monde. On peut très bien dire « Mon Dieu, pardonnez-moi, mon Dieu, je vous aime, etc. » et devant le miroir. Et « Mon Dieu, c'est moi. C'est parce que je fais ma volonté propre. » Ouvrez vos oreilles, mes très chers frères, recevez la parole divine qui peut sauver vos âmes. Et il se trouve que si elle nous rabote quelques aspects, laissez-vous raboter. Ne dites pas « Tout ceci, ce sont des conseils qui ne sont pas pour moi. » Écoutez notre Seigneur sans se plaindre de la sévérité de sa doctrine. Voilà une excellente façon de ressusciter. Il faut être encore, ça c'est tout à fait dans un autre aspect, ça vient aussi de notre évangile d'aujourd'hui, il faut être uni au corps du Christ, c'est-à-dire à l'ensemble des enfants de Dieu. Vous voyez, notre Seigneur ne dit pas « j'ai pitié de ces individus » qui se trouvent être une foule, « j'ai pitié de certains individus qui sont dans cette foule » parce qu'il se trouve que c'était de la foule, c'est une foule qui représentait les élus, donc c'est vraiment une foule de gens qui étaient là pour écouter notre Seigneur dans le désert. Il dit « j'ai pitié de cette foule ». Notre Seigneur aura pitié de nous dans la mesure où nous ferons partie de la foule de ses enfants. Nous ne pouvons pas dire « moi je sais mieux que tout le monde, je fais ma petite religion dans mon coin et notre Seigneur a pitié de moi ». Non, il a pitié de nous en masse. Il a pitié de nous en foule. Alors vous allez dire, oui, moi je suis plutôt élitiste, je n'aime pas tellement être confondu avec la masse. Eh bien, tant pis pour vous, vous ne faites pas partie donc de la masse, de cette masse d'enfants de Dieu, de ces myriades d'enfants de Dieu que Saint Jean a vus dans le ciel, dans l'Apocalypse. Vous ne faites pas partie de ce corps mystique du Christ qui est constitué de toute cette multitude de pierres vivantes et qui constitue l'édifice du temple de Dieu. Il faut donc être uni au corps des enfants de Dieu, au corps mystique du Christ. Donc vous voyez, c'est une chose que d'écouter la parole de Dieu, c'en est une autre que de l'écouter sans récriminer, et puis c'en est une autre que de l'écouter au sein de l'Église, en mettant en pratique immédiatement cette parole de Dieu, qui bien souvent nous met dans des situations délicates vis-à-vis de nos frères. La semaine dernière, nous avons vu que nous ne pouvons pas apporter notre offrande à l'autel si nous savons que notre frère a quelque chose contre nous. Bienheureux ceux qui peuvent comprendre et mettre en pratique ce que cela signifie. Nous savons que l'amour du prochain est la nécessaire vérification de l'amour pour Dieu. Combien de gens disent « Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous aime » et « Mon prochain, je m'insupporte ». Eh bien, ça veut dire que je n'aime pas tellement le bon Dieu. Être uni au corps mystique du Christ, être en communion, en union avec ses frères. Cinquième point. Cinquième marque de notre résurrection spirituelle, cinquième moyen aussi de ressusciter. Eh bien, suivre et écouter notre Seigneur jusqu'à la défaillance inclusivement, c'est-à-dire jusqu'à l'incommodité inclusivement. Écoutez bien ces foules, regardez bien plutôt, écoutez l'exemple de ces foules. J'ai pitié de cette foule, dit notre Seigneur, pourquoi? Parce qu'il est bon, parce que c'est un humaniste, parce que c'est un philanthrope, parce que c'est quelqu'un qui a du surplus alimentaire et qui va nourrir les gens. Non, parce que voilà déjà 3 jours qu'ils ne me quittent pas et ils n'ont pas de quoi manger et, nous font remarquer les commentateurs, ils ne se plaignent pas. Ils ne disent pas « bon, mais voilà, ça fait quand même 3 fois 24 heures qu'on écoute notre Seigneur, ça fait 2 nuits qu'on passe là, on commence à avoir faim, c'est les discours, c'est bien, mais c'est serment, ça n'en finit plus ». Non, que c'était des foules qui étaient, je vais vous même rajouter quelque chose, c'était des foules qui l'écoutaient debout. Si j'ose dire, si on prend l'évangile littéralement, pendant 3 jours, ces foules qui étaient à jeun dans le désert étaient debout, pour écouter notre Seigneur. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce qu'il dit qu'il les fit asseoir. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. C'est donc qu'ils étaient debout. Ils n'étaient pas avachis sur le sol pour écouter notre Seigneur entre deux sessions de surf sur l'Internet. Donc, ils étaient depuis 3 jours sans se plaindre dans le désert, sans manger, debout, je le dis, pour écouter notre Seigneur. Cette foule-là, notre Seigneur en a pitié. Il nous faut donc suivre et écouter notre Seigneur jusqu'à la défaillance. Vous allez dire jusqu'à la défaillance physique. Parfois, et même assez souvent, surtout à notre époque, on est incommodé par le fait de devoir faire de longs trajets pour aller à la messe, pour des lieux qui ne sont pas forcément faciles à trouver, pas facilement faciles à atteindre, que sais-je, il y a toutes sortes d'autres inconvénients. Il ne faut pas se plaindre de ces inconvénients. Il ne faut pas chercher à ce que le bon Dieu vienne à vous, il faut aller au bon Dieu, mais sans se plaindre, jusqu'à la défaillance, même parfois jusqu'à l'incommodité physique. Vous allez dire, qu'est-ce que ça signifie? Ben, posez des questions en privé, on posera des questions, on ne peut pas prendre tous les cas de figure. Mais voyez, il ne faut pas hésiter à se gêner pour écouter la parole de Dieu. Sixième marque, sixième moyen, laissez Dieu pourvoir à nos besoins en cherchant d'abord son royaume et sa justice. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps à écouter des podcasts sur l'internet et ne pas aller travailler en disant le bon Dieu. Non, attendez, c'est pas du tout ça. Déjà, écouter l'Église, c'est pas écouter des sermons sur internet, même des conseils, c'est assister à la messe au sein duquel est l'enseignement et ailleurs aussi, bien entendu. Bon, c'est même pas du tout la même chose. On ne satisfait pas au devoir dominical. Enfin, ça, je pense que tout le monde l'a compris, mais on ne satisfait pas au devoir dominical en regardant une vidéo, même en direct. Bon, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, mais en faisant l'effort de se rendre au lieu où la parole de Dieu est physiquement dispensée. Il nous faut donc chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire prêter l'oreille, une oreille attentive et humble à la doctrine, le royaume de Dieu, et mettre en pratique la justice, de telle sorte que tout le reste nous soit donné par surcroît. Et le reste, qu'est-ce que c'est? C'est pas le luxe, etc. C'est le manger, le boire, le vêtir. Nous devons tout ordonner dans notre vie pour à l'écoute du royaume de Dieu, à la recherche du royaume de Dieu et à sa justice, c'est-à-dire à l'obtention de la récompense de la béatitude éternelle en nous et dans ceux, autant que cela dépend de nous, dans ceux qui nous sont confiés. Il ne s'agit pas d'une quête égoïste, il s'agit d'une quête faite au sein du corps mystique du Christ, dont certains d'entre nous, par exemple les pères, les prêtres, etc., les pères de famille, les prêtres, les mères aussi, sont responsables d'un certain nombre de gens qui leur sont subordonnés, les enfants, les paroissiens, etc. Septième marque, septième moyen de notre résurrection, certaines marques de notre résurrection, être non seulement patient, mais comme disent les auteurs, longanime. Que signifie longanime? Souffrir avec la paix du cœur. La primauté de la charité, c'est la primauté de la charité qui nous fait triompher du vieil homme. Et pour triompher du vieil homme, il ne faut pas simplement lui mener contre lui des batailles furieuses et sporadiques. Il faut se soumettre tout au long de sa vie à cette souffrance qui va en diminuant d'ailleurs. Mais cette souffrance de la crucifixion du vieil homme est souffrance qui s'accompagne de la paix du cœur. Vous allez dire, oui, la souffrance aussi, il faut oublier, n'oubliez pas, la souffrance dans les persécutions. Oui, mais souvent les persécutions sont dues à notre vieil homme. Aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent chrétiens, qui souffrent pour toutes sortes d'opinions, je le répète souvent, mais c'est très important de le savoir, ils souffrent pour toutes sortes d'opinions qui n'ont rien à voir avec le christianisme, parce qu'on peut professer ses opinions et souffrir pour elles sans être chrétien. Donc ça montre bien que ça ne participe pas à la quintessence du christianisme. Souffrons en tant que chrétiens. Souffrons à cause de notre recherche et de notre pratique du royaume de Dieu et de sa justice. Souffrons à cause du fait que nous sortons des villes et que nous allons au désert. Souffrons à cause du fait que nous écoutons attentivement et humblement la parole de Dieu à l'exclusion de tout autre discours. Souffrons ainsi, mes très chers frères, souffrons avec patience, soyons non seulement patients mais longanimes, et c'est ainsi que nous ressusciterons véritablement. Vous avez compris que tout ceci, toutes ces marques de la résurrection opérée par le baptême en nous, se résument à la pratique en acte de la charité, l'amour de Dieu et du prochain. Être fidèle à Dieu et être en cela longanime, c'est en quelque sorte forcer le miracle. Si nous écartons tout ce qui s'oppose à notre vocation de chrétien, Si, au sein de notre vocation générale de chrétien, nous écartons tout ce qui s'oppose à notre vocation particulière de chrétien, placé par la Providence dans telle ou telle voie, si, au sein de cette vie ordonnée, enfin ordonnée, nous pratiquons jusqu'à l'incommodement, inclusivement, la parole de Dieu, la charité, l'amour de Dieu par-dessus tout, si nous combattons nos vices et nous les remplaçons par des vertus qui leur sont opposées, avec l'aide de Dieu, alors, mes très chers frères, c'est comme si nous forcions le miracle. Mais attention, on ne fait pas ça pour voir des miracles. C'est comme si nous forcions le miracle. Quand nous sommes fidèles, mes très chers frères, fidèles à l'exclusion de l'infidélité. Il ne s'agit pas de dire « oui, j'ai été fidèle il y a 3 jours, entre 14h et 14h17, et il me semble que le bon Dieu doit me renvoyer l'ascenseur ». Attendez, fidèle avec longanimité, fidèle sur la durée, fidèle en ayant la charité qui est plus forte que la cupidité en nous. En étant fidèles de cette manière-là, nous ne pouvons pas ne pas attirer le regard favorable de Dieu sur nous. C'est comme si nous forcions Dieu à faire un miracle. Mais est-ce vraiment un miracle? Est-ce un miracle que le grain, qui, une fois tombé dans la bonne terre, disparaît et quelques mois après, ressort sous une forme d'épi qui porte un certain nombre de grains qui s'est multiplié? Est-ce que c'est un miracle? C'est une sorte de miracle. Et ce n'est pas vraiment un miracle. Ou plutôt, c'est l'œuvre de la grâce qui est miraculeuse par rapport aux choses naturelles, mais qui est en elle-même divine. Et donc, c'est une sorte de miracle. Être fidèle à Dieu, c'est forcer le miracle. Des miracles de la Providence, pour nous aider dans notre vie, bien entendu. Mais le grand miracle par-dessus toute chose, c'est la fruition de la vie chrétienne. Ce miracle de la grâce est donc beaucoup plus grand, l'œuvre de la grâce est beaucoup plus supérieure à celle de l'œuvre de la création. Dieu a créé toute chose de rien et il en a fait la création dans laquelle nous vivons. Eh bien, l'œuvre de la grâce est encore plus grande parce que d'un mort, d'une ordure, d'une chose complètement dégénérée et déchue, Dieu a fait un de ses fils. On a fait un fils dans son fils. Est-ce que ce n'est pas une œuvre beaucoup plus grande que celle de la création? Affermissez mes pas dans vos sentiers, afin que ma démarche ne chancelle point. Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. Espérez fermement. Comment cela se pratique-t-il? Comment est-ce qu'on peut espérer fermement sans tomber dans la présomption? Manifestez les œuvres de la résurrection, et c'est ainsi que vous aurez une ferme espérance, mes très chers frères. Dieu est un Dieu qui est, Dieu est jaloux, nous dit l'Écriture, de l'Esprit qu'il a mis en nous par le baptême. Que toute manifestation du vieil homme, mes très chers frères, soit comprise par nous comme étant une insulte au Christ notre Sauveur. Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il nous a donné. Et jaloux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne veut pas que nous le profanions, il ne veut pas, comme dit l'Écriture, que nous attristions le Saint-Esprit dans notre cœur. Dieu veut que nous le glorifions par nos œuvres et par notre fidélité dans notre état. Dans le graduel, nous demandons ceci à Dieu. Revenez de votre courroux, Seigneur, et prenez pitié de vos serviteurs. On ne peut ressusciter avec le Christ et être orgueilleux. Quand on met un point d'honneur à éviter le péché, mes très chers frères, c'est de l'orgueil. Mais quand on aime Dieu par-dessus tout et que l'on s'abstient du péché par amour pour lui, alors c'est de l'humilité. Le résultat est, du point de vue extérieur, à peu près le même. On ne pêche pas. Mais dans le premier, on ne pêche pas par orgueil. Et dans le deuxième cas, on ne pêche pas par humilité. Serions-nous d'ailleurs si exacts, mes très chers frères, à ne pas pêcher si les hommes ne nous voyaient pas, ne nous voyaient jamais? Bien souvent, nous nous relâchons lorsque les hommes ne nous voient plus. Ça, c'est tellement une expérience qui est tellement, tellement universelle. Mais Dieu nous voit tout le temps. Donc, nous devons nous abstenir de péché par amour pour lui, et beaucoup plus, nous devons pratiquer ses commandements. Dans l'Épître, saint Paul nous disait ceci, « Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Mais ailleurs, il nous dit que nous soyons esclaves de la justice. Il n'y a de vraie liberté, nous dit un auteur, il n'y a de vraie liberté que par la mortification des passions déréglées. Nous ne pouvons pas être libres pour le Christ, pour vivre à la gloire de Dieu, si nous suivons nos passions déréglées. Si nous suivons nos passions déréglées et que nous ne les combattons pas, et que nous ne les combattons pas efficacement par une vie de pénitence, alors, véritablement, mes très chers frères, nous ne sommes jamais que morts et pas encore ressuscités, ou nous refusons, ou nous négligeons de ressusciter. Tout ce qui est incompatible avec cette mortification relève, mes très chers frères, du vieil homme. Tout ce qui nous empêche de nous mortifier dans notre vie quotidienne, dans notre vie tout court, provient du vieil homme, qui ne veut pas que nous nous sauvions, que nous soyons sauvés par Dieu. Alors vous allez dire, mais alors on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Eh bien, mes très chers frères, si, après ce sermon, après cet enseignement, vous dites, mais alors on ne peut plus rien faire, on n'a plus le droit de rien faire, et que vous êtes chrétien, c'est probablement que vous n'avez encore rien fait jusqu'à présent. Alors, mes très chers frères, c'est le moment de mettre tout en œuvre avec l'aide de Dieu pour que nous ressuscitions efficacement, que nous ne soyons pas simplement morts, mais aussi ressuscités, afin que nous ressuscitions pour la vie éternelle et que nous ne soyons pas jugés doublement, beaucoup plus que les païens qui ne sont pas baptisés, que nous soyons jugés doublement pour avoir réussi ce tour de force incroyable d'ingratitude, d'invalider notre baptême. Que Dieu nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.